Débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupeau. Le débat.
Bonjour, c'est un grand plaisir d'être à nouveau avec vous cette semaine. Une immense joie que partage sans doute Francis Laloupeau. Bonjour Francis.
Sans aucun doute, bonjour Liliane, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'information.
Et on va commencer avec vous pour le premier sujet de ce numéro.
Oui, Liliane, premier sujet au sommet de ce numéro, le Sénégal et quelques questions sur l'avenir politique de Khalifa Sall.
Interrogation et décryptage, pourquoi ? Eh bien parce que l'ancien maire de Dakar, pour sa première prise de parole publique en début de la semaine, depuis sa libération fin septembre, n'a pas été précis sur ce qu'il fera de sa carrière politique. Rien donc sur ses ambitions à court et à long terme. Il s'est néanmoins employé à rappeler ses convictions et priorités pour son pays, le Sénégal. Comment interpréter cette posture de celui à qui on prêtait pourtant des ambitions présidentielles ? Analyse.
Autre sujet dans cette édition, Liliane, l'offensive diplomatique russe en Afrique, désormais clairement affichée. Que faut-il en penser ?
On l'ignore, Francis, mais on sait que le premier sommet Russie-Afrique de mercredi et jeudi à Sochi s'inscrit dans la suite des autres rencontres similaires. France-Afrique, Chine-Afrique, États-Unis-Afrique et j'en passe. Sommet Russie-Afrique, mimétisme, effet de mode, ou faut-il s'attendre à un changement de cap, de trajectoire ? L'Afrique a-t-elle les moyens de tirer le meilleur de ses courtisans dont les intentions sont connues ? Le débat, c'est dans quelques instants.
Et un dernier sujet, la forte mobilisation de ceux qui s'opposent à la réforme constitutionnelle en Guinée-Conakry.
Quelle réponse va apporter le président guinéen à la démonstration des partisans du FNDS, le Front National pour la Défense de la Constitution ? Ils ont manifesté jeudi dans une capitale guinéenne, Conakry, noire de monde. Selon eux, le projet d'Alpha Condé d'amender la Constitution vise simplement à lui permettre de rempiler l'année prochaine. La Constitution à l'état actuel le lui interdit. Francis, à vous pour le plateau.
Oui, notre grand témoin invité dans cette édition, et avec vous dans la studio de BBC Afrique à Dakar, Jean-Paul Diaz, ancien président du Conseil des ministres de la CEDEAO et ancien vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Jean-Paul Diaz, bonjour.
Bonjour Francis.
Merci d'être avec nous. Un confrère invité également dans la studio de BBC Afrique à Dakar, Mamadou Yaya Baldé, journaliste indépendant et consultant, auteur de l'ouvrage « Guinée, une république en quête de citoyens ». Mamadou Yaya Baldé, bonjour.
Je vous salue, Monsieur Francis.
Merci d'être avec nous. Petite fiche de présentation, biographie synthétique de Jean-Paul Diaz, titulaire d'un DES en droit public et sciences politiques, diplômé de l'École nationale d'administration du Sénégal, l'ENAS, dont vous êtes d'ailleurs sorti major de promotion en 1974. Vous avez occupé plusieurs fonctions au sein de l'administration publique, notamment celle de premier secrétaire à l'Assemblée du Sénégal à Tunis, à l'ambassade pardon, du Sénégal à Tunis, de conseiller technique à la présidence de la République ou encore de directeur de la Fondation nationale d'action sociale, l'AFNAS, acteur politique. Vous avez été l'un des membres de la direction originelle du Parti démocratique sénégalais, le PDS, de Maître Abdoulaye Wade. Et c'est vous qui avez fondé d'ailleurs le journal SOPI, qui signifie changement, journal du PDS. Après avoir occupé le poste de ministre de l'intégration économique africaine, vous avez été exclu du PDS en 1993. Vous allez ensuite créer, en 1996, la formation politique dénommée le Bloc des centristes, Gaïndé, dont vous êtes le dirigeant sous le titre de premier secrétaire. Par ailleurs, vous avez été président du Conseil des ministres de la CEDEAO, membre du Conseil des ministres de l'UMOA, membre du Conseil des ministres de la Zone Franc, membre du Conseil des ministres ACP et CEACP, président du Conseil d'administration du Fonds de la CEDEAO, devenu la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Vous êtes conseiller municipal, vous avez été conseiller municipal de la ville de Dakar en 1996 et 2009. Vous avez été élu député en 1998, puis vice-président de l'Assemblée nationale et conseiller régional de Dakar en 2009. Voilà donc une présentation synthétique de Jean-Paul Diaz. Jean-Paul Diaz, vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio.
Oui, et Francis, nous allons commencer avec le Sénégal pour sa première déclaration publique. 3 semaines après sa libération, suite à une grâce présidentielle le 29 septembre dernier, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, n'a pas vraiment dévoilé ses intentions sur la suite immédiate ou à court terme qu'il veut donner à sa carrière politique. Monsieur Jean-Paul Diaz, on le sait, hein, votre fils Barthélémy Diaz et vous êtes des soutiens de Khalifa Sall. D'autres disent même des soutiens plutôt bruyants de l'ex-maire de Dakar. D'ailleurs, les deux hommes, votre fils Barthélémy Diaz et Khalifa Sall, sont en ce moment en France. Quel est déjà l'objet de ce déplacement ?
Bon, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour le déplacement du député-maire Khalifa Sall, puisque je n'en connais pas les bases. Mais ils sont ensemble, oui. Mais Barthélémy est essentiellement parti pour rendre visite à un de ses amis qui a subi une greffe de rein et qui, depuis lors, ne s'en remet pas. Donc, il est allé pour lui rendre visite, c'est
donc
ça.
Pas d'agenda politique ?
Non.
Rencontre avec les autorités françaises ?
De ce que je... Le concernant lui, non. Mais Khalifa, c'est clair qu'il va rencontrer des responsables français. D'abord les socialistes, peut-être les gens du gouvernement aussi. Vous savez que dans nos pays, il est difficile d'agir sans, je dirais pas sans l'aval, mais au moins sans
la bénédiction de la
Non,
France.
Je ne dirais même pas la bénédiction, sans en informer certains, soit à l'Élysée, soit à Matignon, soit au Quai d'Orsay, soit dans...
Soyez plus précis.
Mais c'est vous êtes journaliste, vous êtes mieux outillé que moi.
Vous êtes en politique, c'est à vous.
Vous êtes mieux outillé que moi. Moi, je n'ai pas encore fait ce genre de démarche, parce que je n'ai pas encore décidé de briguer la présidence de la République du Sénégal. Si ça se fait, vous pouvez être sûr que je ferai ce genre
donc
de démarche.
Donc, si vous avez des ambitions présidentielles,
oui.
Ou mais je des suis ambitions obligé, d'occuper de hautes fonctions en Afrique francophone, ou au Sénégal, oui. Il faudrait l'aval.
Non, c'est pas l'aval.
La bénédiction en
c'est
quelque
pas,
sorte.
Non, c'est ni l'aval, ni la bénédiction.
Ce que vous dites.
C'est faire des échanges. On a des échanges avec ces gens-là. Comme on a des, le Sénégal n'est pas un pays que n'importe qui peut gouverner. Hein. C'est pas possible. Il y a des intérêts. C'est un pays charnière. Il y a des intérêts qui sont là, donc vous ne pourrez pas vous dresser, vous dire je vais diriger le Sénégal, mais je vais être contre les États-Unis, je vais être contre la France, c'est pas possible, il y a des réalités.
Merci.
On est pragmatique, voilà.
Ouais, pragmatique.
Je voudrais remercier Francis Laloupo du descriptif qu'il a fait, c'est tout à fait correct. Il me connaît bien.
Il a synthétisé.
Oui,
hein,
mais c'est voilà. Un descriptif.
Pour revenir rapidement...
Mais je ne savais pas que vous alliez consacrer aujourd'hui l'indépendance association entre la France et le Sénégal. C'est un peu ça, finalement.
Vous savez, Francis, moi, je suis né au XXe siècle. À l'époque, c'était la colonisation. Donc, je suis né juridiquement sur le territoire français.
C'est ça.
Donc, puisque je suis un ressortissant de ce qui existait à l'époque, qu'on appelait les quatre communes. Dans les quatre communes, mon père est né dans une des quatre communes, c'est la commune de Dakar. Ce qui fait qu'il a été ancien combattant 39-45. Nous avons des liens avec la France, il n'y a rien à nier. Nous avons des liens avec la France.
D'accord.
Et j'ai déjà dit une fois que si notre père est le Sénégal, notre mère, c'est la France. Moi, si je suis vivant aujourd'hui, je crois que je le dois en grande partie à la santé que la France avait mise en place à l'époque coloniale ici.
Au système de santé, voilà. Mais on va revenir au sujet de la semaine, le premier, qui est donc la prise de parole publique de Khalifa Sall. Certains ont dit avoir été un peu déçus par cette sortie. On a eu l'impression, quand j'ai écouté certains Sénégalais, qu'il a souhaité garder le secret autour de ce qu'il a réellement envie de faire dans l'immédiat de sa carrière. Il n'a pas été explicite sur sa carrière
mais
politique.
Mais au Sénégal, on dit que si tout le monde sait où vous allez, vous n'y arriverez jamais. Donc il ne va pas sortir de là pour dire « je vais être le président du Sénégal ». On le suppute, on le suppose. Khalifa a été député, il a été maire de la grande ville de Dakar. C'est quand même pas un village du Sénégal. Il a été ministre plusieurs fois.
Donc, prochaine étape, la présidence.
Ah, ben écoutez, je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut ambitionner qui puisse faire qu'il accepte, qu'il supporte 3 ans de prison pour pouvoir revenir à des fonctions qu'il a déjà occupées. Il faut qu'il tente la présidence. Et c'est tout à fait humain.
Merci.
C'est ça.
Jean-Paul Diaz.
Oui, Francis.
Non, en marge de la libération de Khalifa Sall, moi je voulais votre commentaire sur cette soudaine réconciliation entre Macky Sall et Maître Abdoulaye Wade. Alors, vous qui connaissez bien les méandres de la politique sénégalaise, est-ce que vous avez été surpris par ce qui apparaît comme une soudaine réconciliation? Est-ce que ce rapprochement est sincère?
Vous savez, moi, je peux parler de sincérité et de vérité quand il s'agit de moi, mais quand il s'agit d'autres, je ne suis pas en mesure de le certifier.
Vous avez été surpris ces images?
Pardon?
Vous avez été surpris par ces images?
J'ai été un peu surpris parce que je sais que c'était dans le pipeline, c'était préparé depuis longtemps. À mon avis, on attendait une occasion officielle. L'inauguration de la grande mosquée Massali Kouldjinan a été une occasion.
C'était au mois d'octobre.
C'est récent. Et le Khalif général des Mourides est une autorité indiscutable, morale indiscutable. Je pense que s'il demande à des gens de se réconcilier, il doit pouvoir le faire. Maintenant, jusqu'où ça va aller? À mon avis, ça peut être une réconciliation d'homme à homme. Ça peut être une occasion pour arranger certains problèmes. Mais je ne vois pas le PDS fusionner avec la PR ou avoir le même candidat.
Dans la perspective de 2024.
Oui, je ne le pense pas.
Vous avez un peu une idée des termes de la réconciliation, des termes de la négociation?
Non, puisque je n'ai pas eu l'honneur d'assister à quoi que ce soit. Mais j'imagine que venant de Ouad, lui, ce qui l'intéresse, c'est que son fils soit déchargé de toutes les peines qui pèsent sur lui, qu'il puisse rentrer au Sénégal et qu'éventuellement il puisse être candidat à une présidentielle. Je crois que pour Ouad, c'est ça. Pour Macky Sall, je ne peux pas savoir quel est l'intérêt. Peut-être c'est aussi pour se donner une nouvelle image, c'est possible. C'est se réconcilier avec quelqu'un, qu'on le veuille ou pas, qui peut encore en politique. Ouad aurait 70 ans aujourd'hui, je vous dirais qu'en 2024, il serait candidat. Ça, c'est sûr. Et il ferait mal. Je n'ai pas dit qu'il gagnerait, mais il ferait mal. Donc, je ne connais pas les termes, mais je pense que pour Ouad, c'est ça, c'est tout ce qui tourne autour de son fils. Pour Macky Sall, c'est peut-être une façon de se gagner une certaine tranquillité.
Et vous êtes favorable au retour de son fils, Karim Ouad?
Karim est sénégalais. Je suis favorable à ce qu'il rentre chez lui. Vous savez, je dis toujours que on m'a rapporté que l'un des tailleurs de Serigne Touba, quelqu'un qui cousait parmi ceux qui cousaient les vêtements de Serigne Touba, il y a le grand-père de Karim, le père de Ablaye Wade.
Précisons pour les auditeurs que Serigne Touba, c'est le chef religieux de la communauté des Mourides.
Des Mourides, oui, qui a une aura exceptionnelle, n'est-ce pas? Alors celui qui cousait, l'un de ceux qui cousait son boubou, vous ne pouvez pas dire, le petit-fils de l'un de ceux qui cousait son boubou, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas sénégalais. S'il est né à Paris, ce n'est pas de sa faute. S'il est né d'une mère française blanche, il n'a rien demandé. Il est sénégalais, il est le fils d'Ablaye Wade, qui a quand même payé le prix fort pour accéder aux fonctions supérieures auxquelles il a pu accéder.
Francis?
Alors, Jean-Paul Diaz, vous qui avez été un membre éminent du PDS, quel regard vous portez aujourd'hui sur ce parti?
Écoutez, j'ai l'habitude de dire que le PDS, c'est la femme que j'ai courtisée, que j'ai aimée, mais que je n'ai pas pu épouser.
Vous l'avez un peu épousée quand même à l'époque.
Je n'ai pas pu l'épouser. Bon, vous savez, des fois, il y a des contraintes, des faux problèmes de caste ou de religion ou d'origine ou d'ethnie, etc., qui peuvent exister. Donc, c'est Ouad ne m'a pas laissé aimer vraiment le PDS. Il m'a sabré, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il m'a exclu du PDS injustement. Mais j'ai eu à lui dire que toutes les fois où le PDS vit quelque chose de difficile, je le ressens personnellement. Et ça me fait mal.
Si vous permettez, Monsieur Francis, je voudrais revenir avec notre invité, Monsieur Diaz, sur la prise de parole, la déclaration publique de Khalifa Sall. Je le disais, il n'a pas clairement dévoilé ses intentions. Pour la présidentielle, il s'était, disons, rallié à Idrissa Seck de Réumi. Est-ce que cette alliance était juste circonstancielle ou maintenant qu'il est libre, il va pouvoir travailler durablement avec Idrissa Seck, peut-être une alliance entre je ne peux pas prononcer aussi bien que vous, mais en tout cas c'est le nom du mouvement politique de Khalifa Sall. Est-ce qu'on peut envisager que maintenant qu'il est libre, il peut faire une alliance durable déjà avec Réumi, ensuite avec l'ensemble des autres partis de l'opposition, au point de pouvoir être un contre-pouvoir à Beno Moriaka, la coalition présidentielle pour 2020-2024.
Oui, mais Beno Moriaka, pour 2024, on ne sait pas qui sera là. Vous savez que l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous, tout le monde le dit, d'un homme avec un peuple. C'est pas un système. C'est pas...
Mais je parle de l'organisation de l'opposition. Est-ce que ce qui a commencé avec la présidentielle entre Idrissa Seck et Babacar Sall peut devenir une grande coalition politique de l'opposition ?
Tout est possible. Moi, j'évite de... d'aller dans des supputations, tout est possible. Ce que je pense, par contre, là où je pense pouvoir répondre, c'est que le soutien de Khalifa à Idrissa Seck, c'est que Khalifa était en prison, il n'avait pas le choix. Il ne connaissait pas son co, il ne pouvait pas soutenir quelqu'un d'autre. Je pense que c'est circonstanciel.
Son co arrivait troisième.
Pour moi, c'était circonstanciel.
Mais quel est le poids politique réel de Khalifa Sall? Parce qu'on en parle beaucoup, évidemment, il y a eu cette
illusion. Il fallait le laisser être candidat pour le savoir.
Oui. Mais potentiellement, je veux dire, quelle est sa base électorale, au fond, au-delà du périmètre de Dakar?
Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que la présidentielle, c'est une rencontre entre un homme, ou une femme d'ailleurs, et un peuple. Khalifa, on ne lui a pas laissé dérouler son programme. Il était en train de faire le tour du pays. Lorsque brutalement il a été arrêté, incarcéré, etc. Donc je pense que si on considère qu'il n'a pas l'aura nationale, il faut le laisser être candidat.
Mais bon, là c'était le passé. Je pense que Francis posait la question surtout dans le cadre de l'avenir.
Dans le cadre de l'avenir, je pense qu'il a une bonne part à l'intérieur du Parti Socialiste, qui existe, qui est un parti bien implanté dans l'ensemble du Sénégal. Il a pu avoir beaucoup de sympathisants. Ici, c'est un pays où les gens n'aiment pas l'injustice. Quand on est victime de l'injustice, on sort toujours avec quelques bénéfices que ce soit. Donc, je pense qu'il a un potentiel. Il a un potentiel.
Tout comme vous, d'ailleurs. Pourquoi pas ?
Mais moi, je commence à être vieux maintenant.
D'accord. Francis, je propose qu'on écoute Mamadou Yaya Baldé, qui est journaliste guinéen, mais basé ici à Dakar. Et vous suivez forcément Mamadou, cette actualité, la libération de Khalifa, les annonces que souhaitaient certains de ses partisans, son avenir politique, pas très clair. Comment appréciez-vous le fait que sa sortie ait coïncidé avec le limogeage de trois hauts responsables de l'administration sénégalaise par le président Macky Sall? Certains y voient une volonté de perturber un peu l'agenda politique de Khalifa Sall.
Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. Je voudrais saluer le doyen Jean-Paul Diaz, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je sais qu'il connaît particulièrement la Guinée, mon pays.
Que j'aime beaucoup.
Oui, qu'il aime beaucoup et il ne cesse de le rappeler d'ailleurs. Alors, pour revenir à votre question, je crois que, oui, il y a une coïncidence, si vous voulez, un petit peu troublante avec l'agenda politique, oui, avec cette question du troisième mandat aujourd'hui qui commence à s'installer dans l'espace public sénégalais, mais également l'affaire des 94 milliards avec Ousmane Sonko et également Mamour Diallo.
Rappelons que pour le cas du troisième mandat, il s'agit du directeur général des Sénégalais de l'extérieur qui a été limogé.
Oui, Sori Kaba.
Sori Kaba, après des déclarations sur le troisième mandat où il a indiqué que le président de Macky Sall ne pouvait plus prétendre à un troisième mandat, juste pour le contexte.
Exactement.
Vous suivez ?
Oui, je suis bien. Est-ce que ça a été téléguidé par le pouvoir pour un petit peu faire en sorte que le discours de Khalifa Sall ne soit pas audible
Diluer, en plus.
Pour le diluer. Je ne sais pas si c'est le pouvoir qui l'a commandité ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que moi je pense que le contexte même dans lequel il a été gracié, quand même c'est un contexte un peu particulier, ça ne lui permet pas aujourd'hui carrément de prendre certaines postures, de prendre certaines positions claires. Moi je pense qu'il a besoin d'un petit repos, il a besoin un peu de prendre de la distance, du recul, pour pouvoir voir quelle stratégie réellement avoir pour revenir sur la scène politique, parce que quand même l'espace politique sénégalais, c'est un espace quand même qui est très convoité, où il y a beaucoup de personnalités.
La scène politique est saturée en quelque sorte.
Bien sûr.
Merci, on marque une pause.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
En duplex à Dakar et Paris, notre grand témoin invité, Jean-Paul Diaz, ancien président du Conseil des ministres de la CEDEAO, ancien vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal et leader du bloc des centristes BCG. Un confrère invité en studio à Dakar également, Mamadou Yaya Baldé, journaliste indépendant et consultant, auteur notamment de l'ouvrage « Guinée, une république en quête de citoyens ». On reste donc dans l'actualité sénégalaise, Jean-Paul Diaz. Jean-Paul Diaz, une question aussi générale. Hein. Depuis l'arrivée au pouvoir de Macky Sall, le pays a vécu, on le sait, donc au rythme des feuilletons judiciaires, les affaires Karim Wade, Khalifa Sall et autres. Macky Sall lui-même a été l'un des proches hein, de Wade par le passé. Est-ce qu'on peut penser que l'essentiel de la vie politique a été marqué ces dernières années par des règlements de compte entre les héritiers du président Wade?
Écoutez, ça peut donner le sentiment, mais évidemment, le constat, il est quand même là. Moi, je regrette toutes ces affaires-là. D'abord, la première, l'affaire Karim Wade. Personnellement, j'étais contre la judiciarisation de cette affaire. Il fallait la régler au plan politique. Il y a des pays qui ont vécu des choses similaires et qui l'ont réglée au plan politique. Je cite toujours le cas du roi Hassan II, qui a eu à régler ce genre de situation au plan politique. Et c'est ce qu'il fallait faire. On a judiciarisé ça simplement parce qu'il y a des gens qui sont obnubilés par ce qu'on appelle la reddition des comptes, l'impunité, patati patata. Bon, même si on accuse Karim d'avoir soustrait de l'ensemble des caisses de l'État 4 000 milliards, le Sénégal est au-delà de 4 000 milliards. Le Sénégal pour le Sénégal.
On ne pourrait pas vous accuser d'encourager l'impunité?
Mais non, mais peut-être vous êtes des ONG aussi. Les gens qui
sont pas des ONG, mais quand on écoute un homme politique,
non, c'est pas ça, c'est pas
ça. Le Sénégal est au-dessus de 4 000 milliards.
Le Sénégal est au-dessus de
4 000 milliards. Oui, d'accord. Qui n'ont pas 1 000 francs pour
acheter. Oui, d'accord. Mais on ne crée pas un problème de cette nature-là. D'abord, il faut être sûr que c'est 4 000 milliards.
C'est vous qui avez avancé.
Non, je vous dis, on a dit
que c'est la justice qui décide.
Oui. Non, la justice, vous savez, cette justice-là. Tout le monde sait ce que c'est, une justice qui est aux ordres. En tout cas, certains éléments de cette justice qui sont aux ordres. Donc, c'est pas, ça fait que il n'y a rien de crédible. Donc, je dis qu'il fallait régler ça politiquement. C'est comme ce qui s'est passé dans des pays qui sont sortis des guerres ou des situations comme ça. On a dit, oui, impunité, justice, etc., ces pays. Mais ce sont les Blancs eux-mêmes qui ont trouvé la justice transitionnels, qui ont trouvé la possibilité de régler ça sans appliquer les lois du pays qui était là sur le tapis, mais qui ont créé des systèmes. Et c'est de là que sont venus les modèles de commission, de réconciliation. Et j'ai oublié comment ça s'appelle.
Là, il s'agit de délits financiers, quand même, hein, précisément. Ce ne sont pas des délits politiques. Enfin, ce ne sont pas des contentieux politiques. Hein.
Oui, mais là, ce sont des contentieux politiques qui ont été masqués par des délits financiers.
Ah, c'est ce que j'ai vu.
C'est ça la vérité.
C'est ce que je voulais vous entendre préciser.
Oui. Bon, ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est celui de Khalifa. Khalifa est maire de Dakar. Depuis longtemps, moi, je suis né dans cette ville-là. J'ai toujours vu le maire de Dakar en situation d'appuyer financièrement les populations.
Je vais me permettre de vous interrompre, monsieur Diaz, parce que le temps passe et nous sommes dans la perspective. On a déjà eu dans cette émission à parler longuement des conditions de détention ou d'arrestation de Khalifa Sall. Maintenant, il est libre. Ce que je souhaite, c'est qu'on parle davantage de l'avenir. Et je voudrais qu'on revienne sur les questions politiques, parce que c'est l'actualité qui nous intéresse davantage. Il y a Idrissa Diallo, qui est le maire de la commune de Dalifor, qui a affirmé que il y a des gens qui vont quitter l'APR, le parti présidentiel, pour le mouvement de Khalifa. Est-ce que c'est une simple surenchère politique?
Mais
vous confirmez cela?
Non, je ne peux pas confirmer ces déclarations, puisque j'ai aucune preuve. Lui qui l'a affirmé, il faudrait l'inviter. Je pense qu'il...
Je te posais la question parce que vous êtes un proche de Khalifa Sall, donc peut-être vous le savez.
Non, je ne suis pas si proche que ça de Khalifa Sall. C'est beaucoup plus mon fils qui est proche de Khalifa Sall. Moi, j'ai défendu Khalifa Sall. J'ai soutenu Khalifa Sall. J'ai considéré et je continue à considérer qu'il a fait l'objet d'une arrestation, d'un emprisonnement, d'un jugement, etc.
Politique.
Même pas politique, politicien. La CEDEAO a critiqué ça, a condamné ça, a condamné l'État du Sénégal.
D'accord, donc, si vous ne voulez pas parler de Khalifa Sall...
Non, je dis que...
Du départ, des départs supposés ça, Mais sur la question du troisième mandat, Mamadou en parlait tout à l'heure, et quand je lui ai posé la question, est-ce que vous trouvez que le débat est inopportun, hors agenda?
Inopportun, je ne le dirais pas. Je dis que... Il était trop tôt de l'opposer. Ça ne veut pas dire qu'il est opportun ou il est inopportun. C'est trop tôt de l'opposer. Mais quelqu'un d'autre peut me rétorquer qu'il vaut mieux l'opposer maintenant pour vider le dossier. C'est une affaire, c'est un problème. Vous savez, nous sommes sous l'empire, jusqu'à l'heure où je parle, nous sommes sous l'empire de la constitution de 2001, la constitution que Wade avait fait voter. Après 2001, cette constitution a été modifiée par Wade lui-même. Ensuite, elle a été modifiée en 2016 plutôt, par Macky Sall à travers un référendum. Mais c'est la trame est la même. C'est la trame de la constitution de 2001. Dans la constitution de 2001, l'article qui règle cette affaire-là, c'est l'article 27, qui parle de la durée du mandat et du nombre de mandats. Cet article a été mal rédigé. Techniquement, il est mal rédigé. Et on l'a mal rédigé exprès pour pouvoir laisser des failles à des exagérations, dont Wade a bénéficié d'ailleurs. Et cette mauvaise rédaction est restée. Et je crois que ça laisse la porte ouverte à toutes les sortes d'interprétations.
Merci.
Voilà.
Francis ?
Oui, mais enfin, Jean-Paul Diaz, est-ce qu'il y a de bonnes politiques aujourd'hui de penser qu'au Sénégal, on puisse se lancer dans une aventure d'un troisième mandat présidentiel, d'autant que l'actuel président était même parti dans un premier temps sur l'idée qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Est-ce que ce genre de débat ne pollue pas, une fois encore, la vie politique sénégalaise?
Au jour d'aujourd'hui, je dirais oui. Mais peut-être, comme diraient d'autres, il vaut mieux poser ce débat, oui, le vider et on avance. Je pense que moi, le président Macky Sall me demanderait mon point de vue, je lui dirais qu'il ne faudrait pas s'aventurer dans cette voie-là, n'est-ce pas?
Oui.
Mais je ne suis pas dans son esprit ni dans sa tête, je ne sais pas à quoi il pense. Je crois que ce n'est pas indiqué. Il est arrivé au pouvoir élu démocratiquement, à mon avis... Il doit pouvoir sortir par la grande porte et éviter des petits tiraillements comme certains ont pu vivre, etc.
Merci.
Moi, il me demanderait mon avis, je lui dirais qu'il faut trouver un moyen pour clairement... On peut même remodifier la Constitution pour amener des précisions. La Constitution est mal écrite. Et aujourd'hui, au plan juridique purement, Macky Sall peut se représenter. Mais j'avais fait à l'époque un article concernant Wade, j'avais dit qu'il pouvait être candidat, mais qu'il ne devrait pas, du point de vue de la sagesse, du point de vue politique, etc., il ne devrait pas le faire. Eh bien, il s'est entêté avec la complicité du Conseil constitutionnel. Il l'a fait, mais voilà comment il est sorti.
Merci. Francis, on passe au prochain sujet, si vous permettez.
Bien sûr.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Grand témoin invité, Jean-Paul Diaz, leader du bloc des centristes BCG, formation politique sénégalaise, ancien président du Conseil des ministres de la CEDEAO, ancien vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal et notre confrère invité. En studio à Dakar, Mamadou Yaya Baldé, journaliste indépendant et consultant. On va parler du premier sommet Russie-Afrique à présent. Les représentants des 14 pays du continent, dont 43 chefs d'État, ont répondu à l'invitation de Vladimir Poutine pour le premier sommet Russie-France qui s'est tenu cette semaine à Sochi. Un sommet marqué surtout par les discours des uns et des autres. Et alors que certains dirigeants africains ont formulé des requêtes précises en direction de la Russie, le président russe s'est, pour sa part, félicité d'avoir posé les bases permettant à son pays d'intensifier ses échanges commerciaux avec le continent africain. Alors, pour assurer la pérennité de ce sommet, il devrait désormais se tenir à un rythme triannuel, alternativement en Afrique et en Russie. Jean-Paul Diaz, première question pour vous. Quel est, selon vous, le sens politique de cet événement dans le contexte actuel des relations internationales?
Mais c'est la Russie qui essaye de se repositionner. Vous savez que depuis que l'Union soviétique, n'est-ce pas, a disparu, la Russie essaie de se repositionner. Alors, la Russie qu'elle soit Union soviétique ou Russie aujourd'hui, avec l'Afrique, a une histoire ancienne, qui date des indépendances, au moment même avant les indépendances, dans les luttes de libération, etc. Je crois qu'aujourd'hui, la Russie veut se repositionner au plan économique.
Mais la Russie de Poutine aujourd'hui n'est pas l'Union soviétique communiste. On est loin de l'époque de la guerre froide et des blocs.
Oui, d'accord. Vous savez que la Russie a beaucoup de moyens financiers, exactement comme la Chine. Donc elle se dit pourquoi pas moi. Et puis vous savez qu'en plus que le continent est le continent de l'avenir au plan économique. Oui. Donc tout le monde se positionne. Moi, il y a une chose qui me dérange, c'est quand on dit Afrique contre, pas contre, Afrique face à tel pays. Ça me dérange. Oui. Parce
qu'il y a 54 pays face à un seul pays, quoi.
C'est un continent entier. Pays. Pratiquement un continent entier, mais on l'a vu avec le Brésil, on l'a vu avec d'autres pays,
avec
pourquoi
le Japon,
pas
le Japon,
ça me dérange. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas Nigeria, bon là-bas c'est parce que les gens ne sont peut-être pas assez sérieux, mais s'ils étaient assez sérieux, ils pourraient être Nigeria face à l'Europe ou face à l'Amérique latine, etc.
Est-ce que c'est un nouveau partenariat réellement? Est-ce qu'il faut parler de coopération ou de tutorat, parce qu'on entend évidemment...
Non, c'est un positionnement. Il s'agit de se positionner pour prendre, on peut le dire vulgairement, sa part du marché.
Et quelle est la part des Africains dans cette histoire? Quel est l'intérêt clairement identifié des Africains?
Mais les Africains ne font que chercher des moyens financiers. C'est ça. Regardez ce qui se passe entre la Chine et certains pays comme Djibouti, etc. Des pays qui ont presque perdu leur port national ou une bonne partie de leur territoire, simplement pour emprunter. Je crois que c'est un positionnement venant de la part de la Russie.
C'est un enjeu politique.
Bien sûr, c'est un positionnement politique.
On comprend bien le positionnement économique. On comprend moins bien, je dirais, les intérêts que défendraient les Africains face à Vladimir Poutine aujourd'hui.
Non. C'est la Chine c'est la Russie qui cherche. C'est elle qui est acteur dans l'affaire. C'est elle qui cherche. Elle invite les autres, ils viennent. Il y aura des financements, des décaissements, et puis des gens financeront des projets et autres.
En échange de quelque chose.
Bien sûr. D'accord. C'est toujours en échange de quelque chose.
Sur la base de ce que vous savez de la politique ou de la diplomatie africaine de la Russie, Monsieur Diaz, pensez-vous qu'il y aura à partir de ce premier sommet auquel on a assisté cette semaine une approche russe des relations avec l'Afrique, peut-être différente de ce qu'on a vu jusqu'ici avec les autres pays qui ont précédé la Russie? On parlait de la France, des États-Unis,
de la Chine. C'est tout à fait possible. Vous savez que l'avantage de la Russie, c'est qu'elle a des diplomates chevronnés. Moi, je me souviens d'un monsieur que j'avais rencontré dans une conférence, un monsieur russe, mais c'était l'époque de l'Union soviétique, dans une conférence. Mais quand un intervenant prenait la parole en français, il lui répondait en français. Quand un intervenant le faisait en anglais ou en espagnol, il répondait dans cette langue-là. Ils ont des diplomates très chevronnés. Et je crois qu'on va assister à une nouvelle façon de faire de la Russie.
Qui sera différente de celle de la France ou de la Chine. Souvent, on a reproché à la France, notamment pour l'Afrique francophone, de ne s'intéresser qu'à l'exploitation des ressources. C'est vrai que la Chine fait pareil, mais on a doublé à cela, pour la Chine, des accusations de non-respect des droits humains et même d'endettement. Est-ce que vous pensez que... Qu'est-ce qui vous fait penser peut-être que la Russie va procéder autrement?
Elle ne va pas procéder autrement en termes d'intérêt. Elle va pas procéder. Je dis qu'elle a des diplomates chevronnés qui pourront l'aider. Il y a des gens capables qui pourront l'aider.
Pour défendre les intérêts de la Russie.
Les intérêts de la Russie. Mais la Russie ne fera que tirer profit de des matières premières que nous avons.
Différemment? C'était ça ma question.
Peut-être pas. Pourquoi? Non. Elle fera comme font les autres. Elle prêtera de l'argent, elle tirera des intérêts, elle pourra monnayer contre telle ou telle présence. Regardez ce qu'elle fait en Centrafrique.
C'est ça.
Telle ou telle présence militaire ou autre. Influence, c'est
merci.
Ça.
Alors justement, en termes d'influence, Mamadou Yaya Baldé, il y a un épisode quand même qui peut nous intéresser par rapport à ce sujet. C'est quand on a vu il y a quelques mois, l'ambassadeur de Russie en Guinée, dans votre pays, encourager littéralement le président Alpha Condé à briguer un troisième mandat en considérant que chaque pays, évidemment, devait défendre sa culture politique. Comment peut-on traduire idéologiquement ce rapprochement de la Russie avec certains pays africains ?
Alors, merci beaucoup. Alors, je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue une terre d'influence où les superpuissances du monde viennent s'exprimer, montrer leur force, étaler leur volonté. Mais moi, contrairement à beaucoup d'analystes, le premier constat que je fais, c'est qu'en regardant même ce sommet des images, parce que les images sont assez parlantes, je vois la Russie qui est dans une volonté aujourd'hui de puissance, une volonté de venir étaler sa force, de revenir...
Et de concurrence aussi peut-être avec le bloc occidental.
Bien sûr, c'est tout à fait naturel et logique. Je disais tout à l'heure que l'Afrique est devenue une terre où des influences s'expriment aujourd'hui. Et c'est très symbolique. Très souvent, c'est avant même la logique économique, financière, mais également il y a la logique symbolique. L'Afrique, le doyen le rappelait tout à l'heure, c'est un continent, 54 États quand même face à un seul pays, même si, par exemple, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie a le droit de veto, mais l'Afrique quand même, c'est 54 États. Si l'Afrique s'aligne derrière une position de la Russie, sur le plan symbolique, c'est quelque chose de très important.
Est-ce qu'on peut peut-être envisager, puisqu'on je parle aussi de bataille géopolitique, un rapprochement en Afrique de la Chine et de la Russie qui pourrait peut-être justement faire bouger les lignes et bousculer cette présence occidentale, le bloc occidental en Afrique dont Francis parlait.
Si on arrive à ça, ça serait une bonne chose parce que ça permettrait un petit peu de rééquilibrer les choses. Ça va un peu changer les termes de ce partenariat entre l'Afrique et l'Occident. Si c'est dans ce cadre-là, je crois que oui. Mais ce qui est sûr encore jusqu'à présent, c'est que l'Afrique n'est pas véritablement le maître de son destin dans tout cela. Donc on n'a pas véritablement des stratégies que nous élaborons nous-mêmes pour faire face à ces arrivées. D'autres parleraient même d'agression.
De ces courtisans qui se bousculent.
Oui, chez nous.
Justement, Francis Alici. Jean-Paul Diaz, tout à l'heure, vous avez rappelé opportunément que vous êtes un homme du XXe siècle. Est-ce qu'on n'est pas en train, je dirais, de revivre une nouvelle forme de vie, une nouvelle forme de guerre froide ? C'est-à-dire, au fond, des guerres d'influence entre des puissances étrangères qui instrumentalisent l'Afrique, le continent africain, pour la défense exclusivement de leurs intérêts. Ça, on a déjà vu cette configuration lors de la guerre froide au XXe siècle, justement.
Oui, je pense que ça peut se dire comme ça, effectivement. J'ai dit que j'ai pas dit que je suis un homme du XXe siècle, j'ai dit que je suis né au XXe siècle.
Vous avez beaucoup connu le XXe siècle, en tout cas.
Ah, j'ai beaucoup connu le XXe siècle.
Mais comme moi aussi,
la moitié du siècle, je l'ai vécu.
C'est ça.
Donc, je pense qu'on peut le dire, on peut le penser, on peut le dire comme ça. C'est évident. On va se retrouver dans des situations pas loin de la guerre froide. Ce qui fait que tel État, dès qu'il ne pourra pas avoir gain de cause du côté occidental, il va se retourner de l'autre côté. Ou il aura gain de cause, justement, pour pouvoir appâter les autres.
Voilà, je voulais peut-être qu'on parle du G5 Sahel, entre autres chefs d'État présents à Sotchi, il y avait le président burkinabé. Est-ce qu'au regard de ce que la Russie a fait en Syrie, par exemple, et de ce qu'elle fait en Centrafrique, vous l'avez mentionné, on peut espérer que cet appel de pied du président burkinabé aboutisse vraiment à une implication de la Russie dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, quand on sait que les forces françaises...
À partir du moment où l'Afrique elle-même ne règle pas ce problème-là, quand je dis l'Afrique régionale comme l'Afrique continentale, ne règle pas, n'aide pas le Burkina à régler son problème, à partir du moment où l'Occident, la France notamment, n'arrive pas à régler ce problème aux côtés du Burkina, ben, c'est tout à fait naturel.
Mais le point, c'est que certaines critiques affirment que la France n'arrive pas à le faire à dessein et que peut-être la Russie a peut-être plus de moyens militaires et plus de volonté politique pour... aider le G5 Sahel.
Mais personnellement, si je vois ce qui se passe en Syrie, je n'aime pas la brutalité du style russe. Je n'aime pas cette brutalité. Venir bombarder, etc. Je n'aime pas cette brutalité.
Mais il semble que c'est efficace. Pensez-vous que les chefs d'État qui souhaitent l'implication de la Russie ne sont pas au courant?
Peut-être, mais moi, personnellement, je ne suis pas très favorable à ça. Parce que je ne crois pas qu'au plan militaire, peut-être à l'époque, en 58, 56, 57, mais aujourd'hui, je ne pense pas que la Russie connaisse le terrain africain mieux que les Occidentaux. Je ne pense pas.
Justement, quelle réflexion vous inspire, Jean-Paul Diaz, le fait que ce retour de la Russie en Afrique, comme l'on dit, est essentiellement marqué depuis des mois par la signature d'accords essentiellement militaires et sécuritaires.
Mais oui, mais n'oubliez pas que la Russie aussi fabrique des armes.
Oui, c'est
ça. Il faut qu'elle les vende. Son industrie doit vendre ses armes, n'est-ce pas ?
Elle en a présenté.
Pour l'instant, les accords qui ont été signés portent essentiellement sur ce domaine.
Voilà, donc elle vend des armes, elle aide son industrie à vendre des armes, comme font les États-Unis, comme font les autres, la France, l'Angleterre, etc.
Et la Chine aussi, déjà.
Et la Chine aussi. Donc je crois que ça, c'est tout à fait naturel. Mais je ne préfère pas, parce que je n'ai pas vu l'expertise russe dans le terrain de lutte contre le terrorisme. Je n'ai pas vu cette expertise. Je ne la connais pas.
Et en quelques mots, M. Diaz,
ce n'est pas par des avions style Syrie qu'on va régler ça.
Quelques mots, et vraiment très rapidement, comment l'Afrique peut-elle mieux s'organiser pour faire face et profiter au mieux de cette offensive des autres pays et maintenant russes?
Mais il faut l'unité d'abord. Il faut l'unité dans les actions, dans les options aussi. Quand on décide de quelque chose, il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on soit sérieux. On n'est pas sérieux, nous, ici, en Afrique. On n'est pas sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Il ne faut pas que l'aide soit détournée, etc., etc. Il faut que, quand on prenne une décision, qu'on l'applique, qu'on la mette en œuvre. On a beaucoup de manquements, on a beaucoup de défaillances.
Merci beaucoup.
Et ça date de longtemps.
Francis, et sans transition, comme c'est très souvent le cas pour le troisième sujet, on va s'attaquer au dernier sujet donc qui nous mène en Guinée. Jeudi, ils étaient de milliers à manifester à Conakry pour dénoncer le projet de réforme de la Constitution susceptible, selon le FNDC, de permettre au président Alpha Condé de se représenter à la présidentielle de 2020 pour un troisième mandat. Dans la foule, des cris de Amoulanfe, ce qui signifie « ça ne passera pas » en langue soussou. Écoutez ces manifestants sur BBC Afrique.
Nous sommes venus pour manifester, pour défendre les valeurs de la République, pour dire non à un troisième mandat, non à toute velléité de changement de la Constitution tendant à pérenniser un individu à la tête de ce pays. Nous sommes là pour un combat citoyen, nous tenons jusqu'au bout.
Cette démocratie, ils l'ont confisquée. Nous sommes dans un état démocratique, qu'on fasse respecter nos droits. Nous sommes fatigués, on en a marre de cette tuerie, de cette innocence qui tombe. On en a marre.
Nous répondons à l'appel lancé par le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, parce qu'on est tenu obligé de défendre cette Constitution. Nous voulons dire non à un troisième mandat. On demande vraiment à Alpha Condé de renoncer vraiment à ce tripartite de la Constitution.
Qu'il parte à 2020, qu'il s'en aille. On en a marre, complètement.
Voilà. Yaya Baldé, je commence par vous. Il y a eu une bataille de chiffres sur le nombre, mais en tout cas, plusieurs sources nous ont indiqué, y compris notre correspondant, sur place à Conakry, que la ville était noire de monde, la capitale. Mais en tout cas, la détention suivie de la condamnation cette semaine de 5 responsables du FNDC à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme, est-ce que cela a peut-être une incidence sur la grosse mobilisation des partisans de Souffrant?
Naturellement, je pense que cette condamnation a été, si vous voulez, un élément qui a renforcé l'engagement des Guinéens. Aujourd'hui, les Guinéens sont déterminés pour véritablement faire en sorte que la démocratie guinéenne soit consolidée et qu'elle soit vraiment ancrée. Et c'est pourquoi aujourd'hui le peuple s'organise à travers le Front National pour la Défense de la Constitution, qui réunit à la fois des partis politiques, des entités de la société civile, des syndicats, des personnalités indépendantes de tous bords, pour véritablement anticiper, pour dire au président de la République, il va falloir qu'il y ait l'alternance politique. Vous avez entendu les manifestants qui demandaient une alternance en 2020, mais également pour faire en sorte que cette constitution quand même que nous avons acquise en 2010 soit aujourd'hui protégée, parce qu'on ne peut pas permettre à, peut-être à chaque président de la République de venir, selon sa vision politique, de se tailler une constitution de ses intérêts sur mesure. Donc il y a aujourd'hui cette volonté-là dans le pays, et cette condamnation justement a été un élément qui a revigoré cet engagement des Guinéens, à mon avis. Mais ce n'est pas simplement ça, mais il y avait depuis longtemps cette lutte qui a été enclenchée et qui va se poursuivre bien sûr.
Jean-Paul Diaz, à la fin de la semaine dernière, une semaine qui a été marquée, on ne le sait pas, de manifestations et un lourd bilan humain, le président Alpha Condé avait déclaré ceci, je cite, hein, « Le train de la Guinée a bougé, personne ne peut l'arrêter, nous le dirigerons jusqu'au jour où Dieu le voudra ». Comment peut-on interpréter de tels propos dans un contexte de crise ?
Non, moi je me désolidarise de ce genre de déclaration en tant que cadre africain de la politique, je me désolidarise. Je suis déçu de la part du président Condé, parce que c'est quelqu'un qui a dirigé la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. C'est quelqu'un qui a beaucoup lutté. Et je me souviens, lorsque le général Condé, l'ancien président, l'avait arrêté,
Lansana Conté
l'avait arrêté, nous nous sommes battus ici à Dakar, n'est-ce pas, comme on a pu, pour sa libération. Et je me souviens que lorsqu'il a été libéré, qu'il est venu à Dakar, moi personnellement, il m'a téléphoné pour me remercier alors qu'on ne se connaissait pas. Mais c'est qu'il y avait un travail qui avait été fait par les Batili, etc., Ablaye Batili, etc., les Dansoko, toute la bande. Donc il lui avait dit que j'étais dans le groupe, donc il m'a appelé.
Donc vous êtes un peu déçu aujourd'hui de.
Je suis déçu de lui.
Pour l'instant, il n'a pas dit qu'il va se représenter.
Mais il ne faut pas nous prendre pour des demeurés quand même.
Ce que j'ai dit, c'est un fait.
Non,
on lui prête l'intention, mais lui-même n'a pas dit qu'il va.
Oui, mais c'est comme quand vous me dites Khalifa n'a rien déclaré. Il a déclaré qu'il veut se mettre au service du Sénégal. Pas comme député ou ministre ou autre. Il a déclaré, nous, on a compris, à travers les lignes. Non. Alpha Condé n'est pas sérieux dans sa prise de position. On ne peut pas, à 80 ans, n'est-ce pas, après avoir été président pendant 10 ans, on ne peut pas être là à chercher à nouveau à être président. Parce que, à ce rythme-là, mais tout le monde le fera.
Et vous pensez quelle sera sa
réaction ? Et si jamais lui, il réussit son coup, Ouattara réussira le sien, et Macky réussira le sien aussi. Et un autre et un autre.
Et quelle sera d'après vous la réponse, très brièvement ?
Alors là, ce que je voudrais, avant que M. Baldin intervienne, ce que je voudrais dire, c'est que de ce que j'ai appris, il y aurait des cadres africains qui seraient en train de se constituer pour que lorsqu'il y a une manifestation à Conakry sur ce type de sujet, la même manifestation ait lieu à Dakar, la même manifestation ait lieu ailleurs.
Convergence.
Ça, une sorte de convergence. Pour que demain, si jamais la velléité se fait jour à Dakar, les Guinéens aussi fassent la même manifestation après le Sénégal. Ça ne doit plus être un problème de Guinéens, de Sénégalais, d'Ivoiriens, mais un problème d'Africains. Ça suffit.
Un mot pour conclure sur ce sujet, Mamadou Yaya Baldé.
Effectivement, je confirme ce qu'il dit, parce que hier il y avait l'antenne du FNDC Sénégal qui avait organisé une conférence de presse à laquelle les gens du Yanamar étaient là-bas. Ils étaient partis assister et soutenir les Guinéens pour dire que ça, c'est une affaire
régionale. Très brièvement, pensez-vous que cette forte mobilisation va pousser le président Condé à répondre clairement et à préciser clairement sa position sur cette question ?
difficile à dire, mais je pense que s'il lui reste un instinct politique aujourd'hui, il doit pouvoir comprendre ce message qu'on lui a envoyé hier. Je crois que il doit écouter ce peuple-là et aller dans le sens de ce que ce peuple souhaite pour la Guinée. Donc aujourd'hui, il n'a pas intérêt à faire basculer ce pays parce que on ne peut pas revenir en arrière. On a tellement connu des cycles de violence, des problèmes dans ce pays. Et aujourd'hui, il doit être aujourd'hui l'homme qui fera en sorte que la Guinée ira de l'avant et va régler ses questions.
Mais en tout cas, on verra dans les prochaines semaines, Francis.
Le moment est venu, en tout cas, d'écouter les messages de nos amis sur Facebook. Message recueilli et livré à présent par Didier Ladislas Lando.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions recueillies sur la page Facebook de l'émission. Sénégal, Thomas Sankara demande comment Khalifa Sall va regagner sa place dans l'échiquier politique national quand on tient compte de l'émergence de nouvelles forces telles que Ousmane Sonko. De son côté, Charles Bazema appelle l'ex-maire de Dakar à privilégier l'avenir du Sénégal en acceptant la main tendue du président Macky Sall. Sommet Russie-Afrique, Fréjus Akoumia estime qu'il n'y a pas de quoi se réjouir car c'est bien un seul pays qui convoque tout un continent. Aubin Alamafin, lui, affirme que l'Afrique est malheureusement devenue un immense gâteau où chacun vient prendre sa part. Pour lui, c'est déplorable pour le continent africain qui est assis sur une mine d'or de richesse et qui peine à se développer. Guinée, Sangaré Albert appelle le président Condé à prendre exemple sur le président Issoufou du Niger et à clarifier sa position sur un éventuel troisième mandat ou non, car emprisonner les membres du FNDC ne fera qu'empirer la situation. Didos Didier Afodo lui demande si on peut encore faire confiance aux opposants africain, vu ce qu'Alpha Condé a promis en étant opposant et son comportement une fois au pouvoir. Merci à Sethmi Vodessé qui nous a rejoint cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Africa-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous, Didier Ladislas Lando. Liliane, on va demander à notre grand témoin, comme de coutume, une conclusion générale. Peut-être en s'inspirant de quelques questions posées par les internautes.
La conclusion générale viendra de ce que j'ai déjà dit, c'est être sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Voilà. Quand on prend le cas de la Guinée, quand un homme de la trempe de Alpha Condé, qui a été président de la FEAF, adopte ce genre d'attitude, c'est déplorable. Et vous voyez, il essaye de régler par le judiciaire, en emprisonnant, en arrêtant des gens, en les traînant devant la justice, il essaye de régler par le plan judiciaire des problèmes qui sont purement politiques. Où il a tort d'ailleurs. Voilà. Où il a tort. Je pense
et
que...
Sur le Sénégal.
Mais kiff, pareil, c'est pareil. Le président Macky Sall doit clarifier sa position très clairement. C'est que là, depuis 2012, de 2012 à aujourd'hui, il y a un problème de confiance entre sa parole publique et ce qui se fait. Je pense qu'aujourd'hui, il doit trouver l'occasion clairement de, je ne sais pas, je ne lui dirai pas d'aller jurer sur le Coran, mais il doit trouver une occasion pour peut-être un jour, s'il parle à l'université ou dans une autre enceinte, qu'il dise clairement que lui ne le fera pas.
Comme le président nigérien.
Mais avant le président nigérien, il y en a eu d'autres qui ont quitté le pouvoir. Senghor a quitté le pouvoir volontairement.
Merci.
Jean-Paul Diaz, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Paul Diaz, leader du bloc des centristes BCG, formation politique sénégalaise, ancien président du Conseil des ministres de la CEDEAO et ancien vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, notamment. Merci encore. Merci à notre confrère Mamadou Yaya Baldé, journaliste indépendant et consultant, auteur de l'ouvrage intitulé Guinée. Une république en quête de citoyens. Merci. L'émission a été réalisée à Dakar par Alioune Badaramiang. Régie technique assurée ici à Paris par Hugo Vallière. Chargé de production, Didier Ladislas Lando. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, Liliane, pour une nouvelle édition des débats BBC Afrique, Africa Radio.
Oui, Francis, et je vois le réalisateur Alioune Badaran Ndiaye qui fait des grimaces. Voilà,
Alioune donc. Badaran Ndiaye,
sourire. Voilà, merci à vous. Voilà, merci à vous et à la semaine prochaine, Francis. Bon week-end à tous.
Bon week-end, au revoir. Merci.
Salut, Francis. À bientôt.
À bientôt.
Merci.